eu cette idée folle un jour d'inventer l'école.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que...
Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de l'école, animé aujourd'hui par Florence Leroux. Alors exceptionnellement, Hervé Roland n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir de recevoir Clarisse Voutier, directrice des études de l'Académie musicale de Liesse, accompagnée de deux jeunes lycéens, Joseph et Gabriel, qui sont actuellement en tournée. En effet, les chanteurs de l'Académie musicale de Liesse donnent ce soir un concert au Val-de-Grâce et nous en parlerons dans quelques instants. Mais avant cela, place à l'actualité préparée et enregistrée par Hervé Roland.
Eh bien, bonjour donc en ce 4 mai à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Bonjour Florence, j'espère que tout va bien et nous commençons donc par les actualités comme à l'ordinaire de ce Libre Journal de l'école. Et je commence par une étonnante bonne nouvelle, nos autorités commencent elles aussi enfin à regarder la réalité en face. Il s'agit malheureusement du désastre démographique français et de son évident impact sur l'école. La France, selon le ministre de l'Éducation nationale dans un entretien aux Parisiens, va perdre 1,7 million d'élèves d'ici à 2035, ce qu'il baptise lui-même une vague sismique. Écoles, collèges et lycées publics ou privés sous contrat vont donc perdre 1 700 000 élèves d'ici à 2035, ce qui conduit le ministre Édouard Geffray, je cite, à nous dire « Ceci rend nécessaire de repenser l'offre scolaire sur le territoire à long terme ». Une belle opportunité en effet. La baisse en 10 ans, donc entre 2025 et 2035, est donc de plus de 14% d'élèves, c'est véritablement dramatique. Et là, je cite un document du service statistique du ministère, donc de ce qu'on appelle la DEP, qui fonde ses projections sur des hypothèses de fécondité moyenne. En français clair, ça pourrait être pire. Je recite Édouard Geffray parce que ce qu'il dit devient très intéressant. Les projections, dit-il, suivent une baisse bien entamée qui va devenir massive, puisque nous allons perdre 933 000 élèves, près d'un million, dans le seul premier degré. Il poursuit, tout le système éducatif va être impacté par ce mouvement extrêmement ample qui touchera tout le territoire, malgré des disparités nationales assez fortes. Bien entendu, les auditeurs de Radio Courtoisie s'étonnent qu'un ministre de l'Éducation nationale utilise le mot « impacté » qui n'est pas français. Il aurait pu dire, tout le système éducatif va être touché, affecté, atteint, etc. Bref, il aurait pu parler français, mais il a fait là, on ne peut pas trop lui en demander. Édouard Geffray conclut, cela impose de réfléchir à ce que doit être l'offre scolaire sur le territoire à long terme. Il rappelle que l'année prochaine encore, on ne fermera aucune école, on parle de la rentrée 2026, on ne fermera aucune école sans l'accord du maire, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fermera pas, compte tenu de ces chiffres, mais ce principe de non-fermeture d'école, et là je cite cette phrase merveilleuse typique d'un arc, a vocation à se conjuguer différemment. En d'autres termes, on va fermer des écoles qui, avec ou sans l'accord du maire. Ainsi dit-il, toujours, je cite toujours le ministre qui est très intéressant, dans les territoires ruraux, il peut y avoir des regroupements pédagogiques intercommunaux. En revanche, en milieu urbain, il va falloir s'interroger sur le maillage. En particulier à Paris, dont le maillage d'écoles, de collèges et de lycées est extrêmement dense, et Paris, je le cite toujours, va perdre 30% de ses élèves en 10 ans. Cela impose de s'adapter, c'est le moins qu'on puisse dire. Petit commentaire de ma part, le privé sous contrat risque de représenter en 2035 pratiquement la moitié, on en a déjà parlé sur cette antenne, en particulier parce que nos édiles aiment bien l'enseignement privé, même nos édiles et nos élus de gauche. Gabriel Attal, le grand élève de l'école alsacienne, à Paris. On se rappelle l'éphémère Pam Ndiaye, éphémère ministre de l'Éducation nationale, qui dans sa candeur avait dit que lui aussi, il avait mis ses enfants à l'école alsacienne pour qu'ils aient une bonne éducation. les professeurs du public avaient apprécié, etc., etc. Donc la situation parisienne va être intéressante à suivre. Si je reviens à la baisse du nombre d'élèves, donc ce sera évidemment plus accentué dans le premier degré, avec donc à peu près 1 million d'élèves de moins, d'ici 2035, soit 15%, plus de 15% en moins. Et dans le second degré, 750 000 élèves, 13% de moins. Si on prend encore une fois le scénario intermédiaire. Commentaire des syndicats, c'est là où ça devient toujours soit amusant, soit grotesque, comme vous voulez. Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat SFSU, syndicat du second degré, dont nous allons reparler tout à l'heure. Ces projections, dit-elle, ne doivent pas servir d'alibi à une loi de programmation pluriannuelle de suppression de postes. Allons, bien sûr. Il y a 14% d'élèves de moins. Pourquoi supprimer les enseignants? Je crois qu'un jour, même s'il y avait zéro élève, il faudrait toujours mettre des professeurs en face de bureaux vides. Et donc, nous avons pourtant une opportunité extraordinaire, dit-elle. 300 000 professeurs vont partir à la retraite d'ici 2030. Il y a un effet boomer, comme on dit en mauvais français. Mais c'est quand même extraordinaire ce refus de certains syndicats de regarder la réalité en face. D'autant que je rappelle que sur les 867 000 enseignants français, chiffre officiel, près de 100 000 n'ont pas d'élèves en face d'eux chaque semaine. Donc c'est, à mon avis, avec tous ces départs prévus, justement le moment, comme dit le ministre, de repenser l'offre scolaire en France. Alors, autre son de cloche syndicale, différent celui-là, Olivier Gagné, secrétaire général de SNU-IPP-FSU, un syndical du primaire cette fois, estime qu'en cas de fermeture inévitable, ce qui va bien sûr arriver, un redéploiement vers l'enseignement spécialisé, donc les élèves en difficulté, serait souhaitable, dans son commentaire à l'AFP, ça au moins c'est plus intelligent. Si on revient sur cette crise démographique, si on regarde un petit peu les chiffres, le scénario dont on parle prolonge la baisse de la fécondité actuelle pour atteindre un indice en 2030 de 1,5 enfants par femme qui pourrait se stabiliser. C'est-à-dire une catastrophe pour la France qui s'est longtemps maintenue au-dessus de 2 enfants, ce qui était tout juste, ce qui était nécessaire pour le renouvellement. Donc les effectifs du premier degré, si on parle de chiffres là, vont passer en 10 ans de 6 200 000 à 5 200 000, vous voyez, quasiment 1 million de moins. Et ceux du second degré vont perdre donc environ 700 000 élèves. C'est catastrophique. Les politiques n'en parlent pas, parce qu'ils ne parlent pas des choses importantes. Évidemment, cette évolution des effectifs varie d'une académie et d'un département à l'autre. Quelques exemples. Ils vont baisser au total donc les effectifs de 30%, on l'a dit, à Paris, de 12% par exemple à Nice ou à Nantes, de 5% à Mayotte. On pourrait croire que dans ces endroits un petit peu éloignés, la France du grand large, on se tiendrait mieux, mais non. Même eux, les effectifs baissent. Et dans le second degré, par exemple, les effectifs vont reculer de 21% en Martinique. Là aussi, il y a une crise démographique incroyable. 7% à Versailles seulement. N'augmenterait en gros que dans deux départements, la Guyane 5% et Mayotte 6%. Donc c'est très faible. Donc les auteurs qui font de leurs projections sur la démographie marquée par cette baisse qui a été amorcée en fait depuis 2010 et qui donc logiquement a eu un impact sur l'école ou a eu un effet sur l'école en 2016 dans le premier degré et en 2024 dans le second. C'est pour ça qu'on ne s'en est pas tout de suite rendu compte. Je rappelle que pour la rentrée 2026, 4000 suppressions de postes sont prévues, enseignement public et privé confondus, ce qui suscite quelques mobilisations sur tout le territoire. Mais si on applique la règle de 14% d'élèves en moins, supposant 14% d'enseignants en moins en 2035, c'est 120 000 postes d'enseignants en moins. Donc là, évidemment, nous allons en reparler. Et Édouard Geffray a un commentaire honnête. Ne pas supprimer de postes reviendrait à repousser les ennuis pour mes successeurs. Enfin, un politique qui prend ses responsabilités. Mais disons-le tout net, voilà une occasion, même si la raison en est profondément grave et triste, de remettre à plat l'enseignement en France. C'est ça le sujet. On peut se demander comment, sans un centime d'aide, les établissements libres, dits hors contrat, parviennent pour beaucoup à une excellence pédagogique qui fait défaut à tant d'établissements. Rappelons que l'INSEE évalue officiellement le coût total de l'éducation en France à 190 milliards d'euros, et ça, c'était le chiffre de 2024. Je pense qu'avec tout cet argent, on pourrait en faire des choses. Deuxième actualité, puisque je parle des syndicats. Ils occupent une petite scène médiatique, mais en fort, force est de constater qu'on leur prête beaucoup plus que ce qu'ils pèsent vraiment. L'éducation nationale n'est ni la SNCF ou la RATP. Après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, il y avait près de 70% de syndiqués. On continue à penser un peu comme ça. Dans les années 50, tous ces syndiqués, l'essentiel était dans une seule fédération qui s'appelait la FEN, on a connu ça, qui avait un statut donc quasiment hégémonique et un certain pouvoir. Mais aujourd'hui, seulement 30% des enseignants sont syndiqués, ça n'a plus le même poids, d'autant qu'ils se dispersent dans une dizaine de fédérations différentes, regroupant chacun plusieurs syndicats, unis plus ou moins et de manière plus ou moins harmonieuse. Alors là, je vais peut-être faire rire certains auditeurs de Radio Courtoisie, je vous assure que ce que je dis est vrai. Donc j'ai parlé de la FSU, représentant seulement 10% des professeurs, qui se divise en SNES, en enseignement secondaire, en SNUP-IP, donc dans le primaire, en SNESUP pour l'enseignement supérieur, mais il y a aussi le SNASUB pour l'administration scolaire, universitaire et bibliothèque, le SNEP pour l'éducation physique, mais aussi, tenez-vous bien, le SNUEP, le SNIX, le SNUASFP, le SNAPAP, pardon, le SNEPAP, le SNUTEFI, le SNUCAC, le SNUPEL, etc. Je n'invente rien. Tout ça sont tous les syndicats, les innombrables syndicats de l'éducation en France. Au total, près de 70 structures syndicales qui se disputent donc les 30% d'enseignants syndiqués. Autant dire qu'ils ne pèsent plus grand-chose dans les décisions. Troisième sujet d'actualité, une vidéo de l'enseignement catholique de la loi Atlantique 44 qui a fait beaucoup réagir. En pleine semaine sainte, c'était pendant la semaine sainte, il y a quelques semaines maintenant, 45 secondes de présentation avec 10 fois le mot « on croit ». Mais avec cette hallucinante conclusion, ce à quoi on croit avant tout, c'est en vous. Dans l'enseignement catholique de Loire-Atlantique, on ne croit que dans les élèves. C'est peu dire que cette vidéo a provoqué une vague d'indignation, même si certains essayent maladroitement de défendre une vidéo originale. Et Guillaume Prévost, le secrétaire général de l'enseignement catholique, rappelait récemment que le but de l'école catholique, je le cite, était de faire des saints. Nous en avions parlé sur l'antenne de Radio Courtoisie. Il y a comme une déconnexion avec l'enseignement catholique de Loire-Atlantique. Alors, quelques commentaires de la vidéo, je vais citer juste les prénoms. Tric qui dit « En résumé, on croit que le privé catholique est catholique, mais en fait non. » C'est parfait pour illustrer la fuite vers le hors contrat. Bien joué l'enseignement catholique de France. François-Xavier. Pub de boomer. Je ne mets pas mes enfants dans le privé pour qu'ils soient comme tout le monde quand on voit l'état du monde. Et quand on réussit à utiliser 10 fois le verbe croire sans parler de Dieu en pleine semaine sainte, on est pas mal non plus. Autre commentaire. Alan. C'est affligeant, cette pub. Ce en quoi on croit, c'est des clichés moisis. Quelle différence avec le public, donc. Lorraine. En fait, vous voulez inclure, mais vous stigmatisez au contraire. C'est un peu dommage de ne pas mentionner qu'accessoirement, dans l'enseignement catholique, on croit en Dieu. Oui, c'est pas bête comme commentaire. Et le dernier commentaire, réussir à la fois à vexer sa base, sous couvert de « oh ben zut, on voulait faire du second degré », pour tenter de recruter on ne sait pas bien qui, alors que les listes d'attente sont déjà longues, c'est très fort. Quand on pense qu'en plus, il y a eu un budget pour le tournage, etc. Pour in fine faire le meilleur spot de publicité pour le hors contrat, c'est un exploit, bien joué l'enseignement catholique. Bref, un enseignement catholique qui, sous couvert d'humour et de pseudo-volonté d'ouverture, n'assume pas ce qu'il doit être, est ridicule. Peut-être pouvons-nous rappeler à ces auteurs de ce clip, comme on dit, de cette petite séquence, le message donné récemment et envoyé aux Français par le pape Léon XIV. Je cite. Vos travaux se déroulent dans le contexte d'une hostilité croissante envers les établissements catholiques, avec la remise en cause de leur caractère propre. Dans le respect des convictions de chacun et avec toujours le souci d'accueillir largement, le pape vous encourage à défendre avec détermination la dimension chrétienne de l'enseignement catholique, qui, sans référence à Jésus-Christ, perdrait sa raison d'être. Je ne peux que recommander à l'enseignement catholique de Loire-Atlantique de lire un peu plus souvent les textes du pape Léon XIV. Allez, pour finir, un exemple qui va réjouir les auditeurs de Radio Courtoisie. Si vous ne la connaissez pas ou pas encore, laissez-moi vous présenter Anne Villedieu de Torcy. Mon exemple devrait faire réfléchir les opposants de l'école à la maison. car Anne est la major 2025 du concours d'entrée à l'école normale supérieure, l'ENS Ulm, catégorie lettres. Issue des classes préparatoires de CAI, donc au lycée du Parc à Lyon, la jeune femme de 20 ans a fini première du concours avec 17,3 de moyenne générale. Elle s'est notamment démarquée par un triple 20 sur 20 aux écrits, un premier pour la dissertation en français et les deux autres pour les compositions en latin et en grec. 20 sur 20 aux trois. Elle parle de son éducation originale, voire à la marge de la société, puisque dès le plus jeune âge, elle ne prend pas le chemin de l'école. « Ma mère est professeure des écoles, dit-elle. Donc, elle m'a appris à lire et m'a initiée aux mathématiques. Je n'ai suivi aucun organisme de cours à la maison. Elle s'occupait de tout. » Elle néanmoins découvre l'école en CM1 en 2014 à l'âge de 9 ans. Mais, en dépit d'un très bon niveau scolaire, on peut s'en douter, elle est angoissée et désolée au collège et souhaite rester chez elle pour étudier. Ses parents acceptent et sa mère organise le tout. Écoutons Anne. En sixième, dit-elle, je lisais Le Bourgeois Gentilhomme et Les Métamorphoses d'Ovide. C'est sûr que tous nos wesh-wesh soient capables de faire la même chose. Étant d'une famille catholique pratiquante, j'étudiais régulièrement la Bible et je faisais aussi beaucoup de mathématiques. En cinquième, elle est à mi-temps au collège et suit le programme du CNED, donc le Centre National d'Enseignement à Distance, lorsqu'elle est chez elle. Vous n'allez pas le croire. Anne, née à l'heure du tout numérique, n'est pas sur les réseaux sociaux. Pire, elle n'a même pas de smartphone. Pour mon plus grand bonheur, juge-t-elle. Complètement à contre-courant de sa génération, la jeune femme a décidé d'apprendre le latin en autodidacte. Je rappelle qu'elle a eu 20 à la composition en latin à l'entrée Normale Sup Ulm. Elle a appris le latin en autodidacte. Pourquoi a-t-elle appris le latin, dit-elle ? Je voulais comprendre les écrits de l'Église catholique. Rappelons qu'en 2022, au bac français, elle avait déjà obtenu 20 sur 20 à l'oral et à l'écrit. Quant au bac tout court, l'année suivante, elle le décroche avec mention très bien, avec 19 de moyenne générale, ayant obtenu 20 sur 20 à toutes les épreuves écrites. Le bac en poche, direction des classes préparatoires, et aujourd'hui, Normale Sup Ulm. Et je cite Anne en conclusion, « Le choix a été assez naturel, je voulais absolument préparer Ulm pour faire des lettres classiques. Les classes préparatoires, c'est la possibilité d'approfondir de nombreuses matières à un bon niveau intellectuel. Il faut aussi prendre du plaisir à apprendre, la libido s'y indique. Je n'avais quasiment pas l'impression de travailler parce que j'étais dans mon élément. Je me suis rarement forcé à étudier. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent, ou de grands-parents, et qui se disent « Oulala, si j'en avais une comme ça !» Désormais à l'ENSM Ulm, Anne se voit bien enseigner plus tard, une vocation qu'elle a développée cette année. « Depuis peu, dit-elle, je ressens vraiment l'envie de transmettre mon savoir. Donc mon prochain objectif, c'est l'agrégation de lettres classiques. » Eh bien, chers auditeurs, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et voyez, tout ne va pas si mal. Chers auditeurs, voici pour l'actualité de cette semaine.
C'est le plus vieux tango du monde.
Hommage à Mademoiselle de Torcy. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la belle aventure de l'Académie musicale de Liesse. Alors avant de présenter nos invités, prenons un instant pour nous mettre dans l'ambiance.
Victory is the eagle,
L'Académie musicale de Liesse est une école unique en France. Située à Précigné dans la Sarthe, elle forme des garçons du CM1 à la terminale en associant exigences scolaires, formation musicale et vie spirituelle. Une aventure née il y a plus de 10 ans maintenant et qui continue de grandir. Je reçois donc aujourd'hui Joseph, élève de première, Gabriel, élève de seconde, ainsi que Clarisse Voutier, qui a participé à la création de l'Académie et qui en est aujourd'hui la directrice des études, c'est-à-dire chef d'établissement pour le volet académique. Alors Clarisse, revenons au début de cette aventure. Comment est née l'Académie? Et puis, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure?
Alors, l'Académie est née de l'intuition de son fondateur, Vianney Châtillon, de ses expériences d'éducation préalable, de son amour de la musique, de son rêve d'un lieu où les enfants vivraient dans la paix et dans la joie.
Oui, joie.
Alors, patiemment, il s'est formé comme directeur d'école auprès de la Fondation pour l'école. Et il a constitué une bonne équipe et il a créé cette œuvre d'éducation et mené cette aventure pendant 12 ans. Aujourd'hui, l'équipe qu'il a formée et les adultes qui sont venus rejoindre l'Académie poursuivent son œuvre sous la direction de Tanguy et Onduval. Donc l'Académie est née à Liesse-Notre-Dame, petit village de Picardie, le 31 août 2014. Elle s'inscrit dans la longue tradition des écoles maîtrisiennes qui ont fleuri à l'ombre des églises pour servir la liturgie. Aujourd'hui, l'Académie s'est implantée dans la Sarthe, près de l'abbaye de Solesmes, dans la ville de Précigné. Elle est adossée à l'enseignement catholique. Elle est sous contrat simple pour la classe primaire de CM1-CM2 et elle est hors contrat pour le collège et pour le lycée.
Et donc vous, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre l'aventure?
Alors, moi, j'ai été la maman d'un petit bonhomme qui aime beaucoup la musique et qui en avait fait beaucoup avant et qui faisait partie des petits chanteurs de Saint-Dominique Vianney Châtillon dirigeait à l'époque. Et il a su la création de l'Académie et il est venu nous voir en nous disant très clairement « En fait, maman, l'année prochaine, je serai là-bas.
» Je vous quitte.
Donc, je vous quitte, je veux y aller. C'est donc nous avons accompagné un jeune adolescent pour qu'il soit heureux dans son école. Et nous avons passé une soirée à discuter sur l'éducation avec Vianney Châtillon. Moi, j'étais déjà très engagée dans l'éducation par le biais du scoutisme européen. Et donc, nous avons dit que nous pouvions aider. Et voilà, et l'aide, vous savez, quand on aide, on donne un petit bout du doigt et puis le bras n'est pas entier. Donc voilà, je suis restée là.
Donc, vous êtes passée de bénévole à salariée.
Je suis passée de bénévole pendant longtemps à directrice des études très vite, puis salariée parce qu'au début, je n'étais pas salariée. Et je suis toujours là. Voilà.
Très bien. Alors, en une dizaine d'années, le projet a sans doute beaucoup évolué. Quels ont été les grands tournants de cette histoire?
Alors, le premier tournant, c'était de créer et d'ouvrir. Et donc, les premières annonces, le plus petit format dans Famille Chrétienne, vraiment très, très court pour attirer les élèves. Et le créateur a fait le tour de France pour aller chercher les élèves. Et nous avons accueilli 21 élèves qui venaient de partout, dans l'ancien Carmel de Liesse-Notre-Dame. Et donc, à ce moment-là, ce Carmel était immense. Et on était vraiment bien.
Et on a... Chacun avait sa chambre.
Voilà, chacun avait sa chambre seule. Ça, les académiciens ne pourront pas en revenir. Parce que pour l'instant,
vous êtes comme sur un bateau,
plus le cas. C'est plus le cas. Ils sont plutôt quelques-uns par chambrée. Voilà. Et puis, dans cette première année fondatrice, il fallait tout mettre en place. Il fallait mettre en place une école. Il fallait mettre en place la partie musicale. Il fallait mettre en place les cours de piano. Il fallait mettre en place les répétitions. Il fallait mettre en place la vie de l'internat. Et surtout, il fallait faire comprendre à tous les adultes ce qu'on voulait comme style éducatif, ce qu'on voulait vivre et expliquer la pédagogie préventive de Saint Jean Bosco que vraiment on essaye de vivre. Et donc, on a mis en place tous les 1001 détails de la vie de l'Académie que les garçons vous raconteront pour faire naître cette vie fraternelle qu'est la nôtre, en fait. Alors oui, c'était un vrai défi.
Oui, parce qu'il fallait former les enfants, mais les adultes.
Il fallait surtout former les adultes. Les enfants, ce n'était pas trop compliqué finalement, mais former les adultes.
Première année, c'était ça.
Voilà, c'était ça. Et ça a été une grosse année pour mettre en place nos principes pédagogiques, c'est-à-dire la joie qui est le signe de la présence de l'Esprit-Saint dans nos âmes, la confiance. La confiance, c'est le fondement de notre travail éducatif. Nous faisons d'abord confiance aux garçons. Ils ont beaucoup de responsabilités, vous en parlerons tout à l'heure, c'est essentiel. Mettre en place l'esprit de famille. Donc, l'esprit de famille, c'est vivre la charité universelle tous les jours avec des garçons que vous n'avez pas choisis, mais qui deviennent vos frères. Mettre en place cette pédagogie préventive qui est basée sur la connaissance de chacun et sur la motivation permanente de tirer le meilleur de chacun. Et puis, en fait, aussi laisser créer l'esprit d'initiative et la créativité. Ça se fait bien au lycée cette année, mais ça se faisait déjà dès le départ, parce qu'on n'avait qu'un collège. Et donc, par exemple, ce sont les élèves qui ont mis en place les horaires aménagés, et pas du tout nous au départ. Donc, au départ, nous, on a fait une école normale, avec des cours de 8h le matin à 16h le soir.
La musique après.
Et la musique après. Et en fait, ils nous ont dit, mais on n'est pas du tout venu pour ça. On est venu pour faire autrement. Est-ce qu'on peut modifier la partie scolaire? Et on a accompagné cette chose-là. Voilà. Alors après, le deuxième défi, c'était de déménager. Et les bâtiments que nous avons à Précigné aujourd'hui nous ont été transmis, donnés en 2016. Et il a fallu 6 ans pour réfléchir à ce déménagement. Est-ce qu'il fallait quitter Liès ou pas? Est-ce qu'il fallait garder les deux lieux? Est-ce qu'il fallait mettre les petits à droite et les grands à gauche? Bref, c'était compliqué. Et pendant tous ces temps-là, le nombre d'élèves a grossi à l'académie, jusqu'à arriver à, en gros, 90-95 élèves. Et je vous rappelle que c'était un carmel. Et dans un carmel, en fait, on accueille 24 religieuses. Et après, on fonde. Donc, à la fin, au carmel, on était un peu serré, n'est-ce pas, Gabrielle?
Oui. Poussé à fonder ailleurs.
Voilà. Et donc, nous sommes partis. Et là, c'était quelque chose de gigantesque parce que... parce qu'il fallait déplacer 500 mètres cubes sur 400 km qui séparaient les deux localités. Il a fallu charger et décharger 8 35 tonnes et se réinstaller là-bas.
Donc, sans prendre de déménageur.
Alors, on a pris un déménageur pour les choses difficiles, les pianos, les grosses armoires. Mais le reste, effectivement, c'est l'équipe d'adultes et les élèves qui ont aidé à ce déménagement et à ce déchargement plus... Une armée de bénévoles qu'on remercie encore tellement ils nous ont aidés pour cette partie-là. Et voilà, et on peut dire aussi que comme dans tout déménagement, je pense qu'il y a certains cartons qu'on a retrouvés que bien un an après. Ça, c'est normal. Voilà.
Et donc ce lieu, est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu? Qu'est-ce que c'était auparavant?
Alors, auparavant, c'était un préventorium, un endroit où on accueillait les jeunes et les moins jeunes qui risquaient de développer la tuberculose. C'était tenu par les sœurs marianites de Sainte-Croix, qui est une congrégation diocésaine du diocèse du Mans, et qui aujourd'hui s'épanouit beaucoup aux États-Unis et beaucoup moins au Mans, puisque, en fait, comme tous nos ordres diocésains, hélas, il nous reste quelques anciennes sœurs, mais plus grand monde. Et en fait, ces bâtiments gigantesques, type 19e, qui ont été effectivement. Un hôpital, un collège, une prison pendant la guerre, un peu tout, vous voyez, des grands carrés quoi, de bâtiments, n'étaient plus du tout aux normes pour accueillir les personnes âgées qu'elles accueillaient dans les dernières années de l'académie. Et donc, la petite sœur Raymonde, qui était la directrice de ce grand bâtiment, voulait que ce bâtiment vive. Et de fil en aiguille, elle a connu notre projet et elle a été exaucée et elle nous a transmis ce bâtiment. Et on est très heureux là-bas. Enfin là, on a quand même beaucoup plus de place quand même, même si les garçons regrettent beaucoup le jardin de Liès.
On n'avait plus de jardin là.
Et le terrain de foot aussi.
Le terrain de foot. Alors, installer un terrain de foot, alors.
Alors, nous n'installerons pas de terrain de foot, mais nous avons la joie, beaucoup de joie, de travailler avec la mairie de Précigné, qui, très généreusement, nous permet l'utilisation des terrains municipaux pour le foot, pour le rugby, nous prête le gymnase, nous prête aussi la piscine l'été, le terrain de tennis, le city stade. En fait, on est loin d'être brimé de ce côté-là. On a beaucoup de chance, c'est vraiment bien.
Et à domicile, vous avez la chapelle, alors, qui est un peu le cœur de la maison.
Le cœur de la maison, c'est la chapelle. Nous avons donné notre concert que nous redonnons ce soir, mercredi dernier. Nous avons la chance de cette très belle chapelle qui peut accueillir 300 personnes. Donc, en fait, voilà. Et on en profite bien. On en reparlera plus tard. Voilà. Et alors, le dernier défi, c'est de pérenniser tout ça. C'est de pérenniser tout ça. C'est de continuer à permettre l'éducation intégrale de nos élèves. C'est de pérenniser l'équipe d'adultes. Parce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des adultes qui veulent bien s'occuper de nos grands adolescents. Et c'est difficile aujourd'hui de trouver aussi des professeurs pour les accompagner. Et puis évidemment, il faut aussi pérenniser la situation financière. Ça reste le nerf de la guerre et ça reste difficile. Donc voilà.
De nombreux défis encore. Et donc là, vous évoquiez l'éducation intégrale. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un élève?
Alors concrètement, c'est la parole, hein, parce que c'est quand même eux qui savent mieux. Nous, la première chose qui est importante, c'est que nous leur faisons confiance et nous leur confions des responsabilités. Alors je vais laisser Joseph nous expliquer ce que sont les capitaineries à l'académie et quel est son rôle de chef d'équipe.
Donc à l'académie, donc toute la vie quotidienne et même la pédagogie de l'éducation des élèves en fait se fait aussi par les élèves, alors les plus grands. Et donc ce qui permet cela, donc c'est le système hiérarchique entre élèves des capitaineries. Et donc à l'académie, toute la vie quotidienne de la journée se déroule justement grâce à ce système. Alors pour faire simple, les élèves à l'académie sont divisés en 4 capitaineries du nom des 4 évangélistes, Saint-Marc, Saint-Luc, Saint-Jean et Saint-Mathieu. Et donc à la tête de ces 4 groupes, de 30 élèves approximativement, il y a un capitaine qui est donc partiellement en charge de ces 30 élèves. Et donc pour l'aider dans cette mission, il y a 3 chefs d'équipe, dont je fais partie, pour donc, comme je l'ai dit avant, organiser la vie quotidienne de la journée. Alors du coup, très concrètement, ça consiste en... en plusieurs missions, comme par exemple le lever des élèves le matin, le rapatriement des élèves pour les différentes prières, comme l'Angélus, la prière du matin, et aussi la gestion du bon déroulement des repas, comme le déjeuner et le dîner.
D'accord.
Et donc, éducativement, ça nous apporte énormément de choses. Déjà, donc, il y a cette charge de responsabilité qui est quand même assez conséquente.
Oui, alors rappelle-nous ton âge et ta classe.
Je suis donc en première et j'ai 17 ans.
D'accord.
Et donc, aujourd'hui, à 17 ans, j'apprends à diriger une équipe. Par exemple, vendredi après-midi, nous faisons le ménage nous-mêmes.
De tout le bâtiment.
De tous les bâtiments.
Oh là là.
Et donc, l'académie, enfin, les bâtiments de l'académie sont divisés en 4 zones, une zone par capitainerie.
D'accord.
Et donc, les élèves ont tous la charge d'une zone nettoyer. Et donc, pour gérer tout ça, les capitaines et les chefs d'équipe sont vraiment très concrètement en charge de ce rangement et donc de ce ménage. Et donc voilà, donc aujourd'hui, moi j'apprends à diriger une équipe de 10 garçons, à donner des directives, à gérer des problèmes. Et vraiment, ça m'apporte énormément. Et en plus de cela, il y a aussi notre relation vis-à-vis des plus jeunes, qui grandissent en fait, notamment aussi, grâce à nous, en quelque sorte. Et en fait, c'est juste incroyable de pouvoir se donner comme ça, être au service des plus jeunes et en même temps de pouvoir se former.
D'accord. Et alors, pour te former, qu'est-ce qu'on vous propose à l'académie?
Donc, alors, au-delà de ces responsabilités de chef d'équipe, il y a aussi énormément d'autres responsabilités donc pour les autres élèves qui ne sont pas chef d'équipe et capitaine. Et en fait, à l'académie, tous les élèves ont une responsabilité. D'ailleurs, il est de tradition que le plus jeune à l'académie soit le responsable d'apporter la petite cloche au directeur la petite cloche qui sert à sonner la fin du repas et le début des avis du midi.
D'accord. Des petites responsabilités, voilà, chacun sa mesure.
Chacun sa mesure, exactement. Ouais. Et, vraiment, tout le monde est responsabilisé. Responsabilité,
oui.
Et peut-être que je pourrais laisser Gabriel parler de sa responsabilité.
Oui, Gabriel. Alors Gabriel, rappelle-nous ta classe et ton
âge. Moi, je suis en seconde et j'ai actuellement 15 ans.
Oui, et tu es à l'académie depuis combien de temps?
C'est ma cinquième année, donc je suis arrivée en sixième à la dernière année à l'IS Notre-Dame.
Ah, et donc tu as connu l'ancien
ouais, le Carmel.
Ouais, ouais. Nostalgique un peu du terrain de foot.
Oui, c'est ça. Et donc, moi, ma responsabilité consiste sur les auditions. Donc les auditions, c'est un temps musical qui a lieu à la fin de chaque repas du midi où des élèves présentent un morceau de leur trimestre, donc de leur instrument ou en chantant qu'ils ont pu travailler. Mmh. Et donc moi je suis chargée de coordonner tous les gens qui jouent à la fin des repas.
D'accord.
Donc d'abord créer le tableau qui liste toutes les personnes qui passent, donc 3 personnes par jour, plus un présentateur qui présente les gens qui passent.
Et les œuvres, c'est ça?
Oui, ouais, et les œuvres, ouais. Voilà. Et ensuite, moi donc on est à 2, donc moi je suis responsable et un adjoint. Et donc il y a 4 jours dans la semaine, du lundi au jeudi. Moi, je fais 2 jours où donc je suis responsable de récupérer, enfin de prévenir les gens qui passent le jour même et de leur dire d'aller se préparer et d'être prêt au bon moment pour que ça commence à l'heure et que ça passe, voilà.
Oui, d'accord.
Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a souvent des gens qui cherchent à ne pas pouvoir passer en disant j'ai pas de morceau, ouais. Voilà. Bon. Donc ça permet, parce qu'en même temps, on passe devant toute l'académie, donc ça permet de travailler. Déjà son instrument.
D'avoir un public.
Et en public, ouais. Et travailler sa présentation de son morceau en public.
Ouais, c'est extraordinaire. Ça, c'est pendant le dessert ou...
C'est ça, à la fin du repas. Donc voilà, ça, c'est une des responsabilités.
Oui, qui est importante.
Et après, pour revenir aux capitaineries, parce que les capitaineries, il y a aussi un but ludique, qui est le défi des capitaineries qui a lieu tous les trimestres. Donc, où chaque capitainerie peut gagner des points par des défis, donc des Olympiades. Ou d'autres défis comme les auberges dont je parlerai après.
Oui.
Et à la fin du trimestre, la capitainerie ayant récupéré le plus de points a une soirée ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai gagné par exemple le dernier trimestre. On a pu avoir une soirée d'abord jeu avec plein de jeux. Genre, on a pu faire du tir à la carabine, du tir à l'arc, des choses comme ça.
C'est-à-dire vous quittez l'académie?
Non, on reste dans le cadre et puis on fait des choses comme ça. Et après, un dîner amélioré avec toute la capitainerie et les adultes qui ont organisé.
Les autres vous regardent manger.
Alors, les autres sont quand même ailleurs pendant ce temps-là.
Voilà.
C'est difficile. Mais tout le monde a joué le jeu et tout le monde a eu le trimestre pour se donner à fond dans plein de choses. Tous les domaines sont pris en compte. La partie scolaire joue un petit peu sa partie dedans parce que les récompenses du conseil de classe rentrent dans le défi des capitaineries. Le rangement des chambres rentre, le rangement des classes rentre dedans aussi, la ponctualité au rassemblement.
Le tableau d'honneur.
Les tableaux d'honneur qui sont distribués toutes les semaines aux élèves dans le domaine des études, de la musique, du bon esprit et du dévouement.
Oui.
Plus plein de choses que l'équipe d'adultes est capable d'inventer de façon à entretenir cette cohésion d'équipe.
Il n'a pas trop de mal à noter.
Non, ça va. Critère pas mal. Et puis surtout, alors les deux choses importantes, c'est quand même les auberges. Alors je vous laisse vous partager pour raconter ce que c'est que les auberges.
Oui, donc pour revenir sur les auberges, c'est vraiment un événement à l'académie qui est vraiment attendu de tous, que ce soit du côté des adultes ou des élèves. Et donc pour faire court, c'est un peu un mélange. C'est une soirée qui est organisée par les élèves de la capitainerie qui vont vraiment tout préparer. De l'animation à la cuisine, à la décoration. Et c'est vraiment des soirées extraordinaires parce que ce sont des soirées donc, qu'on organise du début de l'année jusqu'à après Noël. Et c'est justement les chefs d'équipe et le capitaine de la capitainerie en question qui est en charge de l'organisation de toute la soirée.
Pour toute l'école.
Pour toute l'école.
D'accord.
Et donc, encore une fois, c'est vraiment une formation extraordinaire parce que on apprend une tonne de choses. On apprend à gérer notre équipe et à planifier. Ensuite, il y a aussi la partie live, on va dire, où il faut faire face aux problèmes du direct. Il faut organiser donc ces animations. Il faut mettre de l'ambiance. Il faut pouvoir transporter les personnes parce que donc ces auberges se passent habituellement dans la salle à manger.
Oui.
Et donc, en fait, on remarque, on constate que les auberges qui gagnent, ce sont les auberges qui transportent. Et donc là, c'est de la décoration.
Monde, ouais. Et est-ce que tu peux nous donner l'exemple?
Cette année, par exemple, l'auberge qui a gagné, c'était donc l'auberge de la capitainerie Saint-Marc.
Ouais.
Et ils ont fait une auberge sur le thème du cirque. Et donc, une fois rentré dans la salle à manger, on ne la reconnaissait plus. On était vraiment au cirque. C'était excellent. On avait des gradins et tout. Et donc, ouais, en plus d'être une pédagogie, où on apprend des choses et tout, il y a aussi tout ce moment vraiment de cohésion extraordinaire entre toute l'académie. Avec déjà entre capitainerie, la capitainerie qui organise, mm-hmm. et puis ensuite toute
et les autres
l'école ensemble.
De recevoir ce que vous leur proposez.
C'est vraiment excellent.
Vous nous donnez envie, là, Clarisse, je crois que vous pouvez inviter.
C'est toujours un moment très, très attendu, où effectivement, organiser ce dîner à thème et nous transporter ailleurs, ils sont extrêmement forts. C'est assez inimaginable de voir, effectivement, cette année, effectivement, on est allé au cirque et ils ont réussi à mettre... je ne sais pas combien de tonnes de sable dans la salle à manger. Ils ont transformé, ils ont créé le chapiteau, ils ont créé...
L'odeur de l'éléphant.
Voilà, ils nous ont commencé avec... on était accueillis avec des pop-corns et du coca, parce que effectivement, c'est comme ça. Et on a eu un super spectacle, mais on a aussi partagé une super soirée autour de je ne sais plus quel bandit... américain qu'il a fallu poursuivre dans le Far West.
Vous avez réussi à faire entrer un poney dans
Voilà, on a vécu dans un petit village d'irréductibles gaulois, n'est-ce pas? Mmh. Et on a vécu le dernier...
La guerre de Troie.
Voilà. Donc en fait, l'imagination est assez extraordinaire et on passe super soirée, mais c'est une vraie responsabilité pour la capitainerie de faire ça.
Oui, certainement.
Voilà, et puis il y a une autre fête, peut-être, Gabriel, tu nous évoques la Saint-Dominique Savio.
Alors, c'est la Saint-Dominique Savio qui arrive plus tôt, donc là, ça va être en mai, dans peut-être 2 semaines, je crois.
Oui.
Et c'est pendant une soirée, ça va être chaque capitainerie qui vont successivement passer pendant 10 minutes. Donc, cette année, ça va être un sketch, donc plutôt basé sur le rire et s'amuser, et souvent avec un peu des blagues sur les adultes, sur l'académie, voilà.
Oui.
Et donc cette année,
c'est votre journée de fête à vous, quoi.
C'est un peu notre fête à vous, et en fait, ils savent et ils le font avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de charité. Et donc, voilà, en général, pour être sûr, il faut valider un petit peu par un autre adulte. Voilà, mais ça permet une bonne soirée de cohésion et ça nous apprend à nous, les adultes aussi, à rire un peu de nous-mêmes de temps en temps.
Mmh.
Donc cette année, c'est un sketch, et un an sur deux, c'est aussi une vidéo. Donc l'année dernière, c'était une vidéo préparée par la capitainerie et filmée.
D'accord.
Et du coup, cette année, c'est un sketch. Donc après, il y a des critères et un gagnant avec des points. Donc ça, c'est aussi préparé par la capitainerie après les auberges. On travaille dessus jusqu'au moment où la soirée a lieu.
Mmh. Très bien. Donc, après, oui.
Donc il y a beaucoup de fêtes chez nous.
Oui, je vois ça. Donc justement, il y a la fête, mais il y a aussi la foi et la prière qui est un pilier important de votre vie. Et alors, justement, pourquoi est-ce essentiel pour vous aujourd'hui et comment ça s'articule avec l'exigence scolaire dont on n'a pas beaucoup parlé encore jusqu'à présent?
Alors, il faut bien dire que l'exigence scolaire, c'est bien la chose dont les garçons parlent le moins en rentrant à la maison. Mais ça reste important, on en reparlera après. La vie de foi et la vie de prière, c'est pour nous, on souhaite vraiment donner à chaque élève la possibilité de rencontrer le Christ, de vivre sa foi et de la vivre paisiblement. Donc nous, on propose une vie de foi joyeuse, familiale, enracinée dans le quotidien. On propose, pour essayer de la vivre, de suivre une vertu par semaine. On propose des choses assez concrètes pour montrer que la foi, c'est concret et c'est tous les jours. La chapelle est toujours ouverte. Vous pouvez y aller, ils peuvent y aller quand ils veulent. C'est le cœur de l'académie. Il y a une chapelle latérale par capitainerie, donc ils ont chacun leur chapelle, ils peuvent y aller. Et on peut y aller à ces moments de liberté, on peut y aller pour prier, pour adorer, pour contempler.
Il y a le Saint-Sacrement.
Le Saint-Sacrement est présent, on a la chance d'avoir la messe qui est proposée 3 matins par semaine. Alors la messe est libre, enfin, ce matin-là, celui qui veut y aller, il y va, celui qui ne veut pas y aller est libre de ne pas y aller. Et de temps en temps, on a la joie d'avoir des messes qui rassemblent quand même toute l'académie. Alors en particulier, la grande fête que nous souhaitons beaucoup, c'est Saint-Joseph.
Oui.
Parce que c'est quand même le patron de la maison. C'est lui qui a en main tout ce qui pourrait se passer dans l'académie. On lui confie beaucoup de choses. Voilà. Et puis aussi, la chapelle, elle est aussi notre lieu de vie tous les jours, puisque... une école maîtrisienne, c'est une école qui est au service de la liturgie. Et à Liesse Notre-Dame, nous étions au service de la basilique de Liesse. Aujourd'hui, nous chantons toujours les vêpres tous les soirs dans la chapelle. Ces vêpres sont retransmises tous les jours sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre à partir de 18h30 sur Facebook, sur YouTube, comme vous voulez. Et en fait, cette retransmission des vêpres, c'est une initiative élève.
Donc on a des initiatives.
Voilà. Ils sont venus en nous disant, ils étaient en troisième, Jean-Roch et Louis, en disant, bah voilà, nous, on voudrait que les vêpres soient diffusées à tout le monde. Et voilà comment on va faire. Voilà le matériel dont on a besoin. Nous, la technique, on sait faire, etc. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont bien grands maintenant. Ils ont transmis aux autres. Et je peux vous dire que je pense qu'aucun adulte de l'académie n'est capable de transmettre les vêpres. Il n'y a que les élèves qui sont secret au courant de la question. Secret bien gardé. Voilà. Et puis, on a aussi la joie d'avoir un prêtre résident qui nous accompagne tous les jours, qui est là pour nous dire la messe, qui est là pour présider les vêpres et qui est là pour confesser. Et comme nous sommes un établissement d'enseignement catholique, nous avons aussi un prêtre référent qui vient à un autre d'autres moments, qui nous prépare aussi au sacrement de confirmation. Et puis, quand il faut, parce que ça arrive, eh bien, qui a aussi accompagné Henri pour son baptême, puisque quand il est arrivé à l'académie, il n'était pas baptisé. Et qu'il a mis quelques années avant de demander le baptême, et on a eu cette grande joie du baptême d'Henri. Et alors, dans la foi, il y a aussi une possibilité, enfin, les garçons ont eux-mêmes aussi proposé, pour certains, de prier plus. Alors, je laisse la parole à Joseph pour ça.
Tu portes bien ton prénom, alors, Joseph.
Oui, en effet, donc, à la troisième année de l'académie, je crois, des élèves ont proposé un groupe un peu à l'image du groupe que Saint-Dominique Savio avait proposé à Saint-Jean-Bosco.
Oui.
Donc, il s'appelle le groupe des écuyers. Et donc, notre but est de vivre un engagement spirituel très, très personnel, plus fort. Et donc, concrètement, ça consiste plutôt donc, à un rendez-vous communautaire de prière. Donc, tous les mercredis soirs, on va dans la chapelle du Sacré-Cœur. Et
chapelle de votre capitainerie ou là
c'est donc, c'est une chapelle. Il y a la grande chapelle principale, et puis derrière l'orgue, il y a une petite chapelle qui n'est pas forcément une capitainerie. Et c'est là où la messe est célébrée d'ailleurs. Et oui, et donc tous les mercredis soirs, ce groupe va prier ensemble. Et donc ici, on porte les intentions de l'académie, du directeur. On essaie aussi de prier pour la paix dans le monde.
Ouais.
Et il y a aussi d'autres engagements comme une dizaine par jour, au moins une messe par semaine. Et donc voilà. Et donc, ce qui est vraiment excellent avec ce groupe, c'est déjà à l'académie, on est vraiment dans un bain spirituel. On peut vraiment aller à la chapelle quand on veut. Il y a la prière du matin, l'Angélus du midi. Et en fait, on a toujours besoin de plus. Et donc, ce groupe est vraiment excellent pour ça. On peut vraiment aller prier, porter les intentions et se porter entre nous aussi. Donc, voilà.
D'accord. Et là, ça peut être des enfants de primaire comme les terminales ou c'est plutôt pour les plus grands?
Alors non, l'engagement peut se prendre à partir de la maîtrise, c'est-à-dire à partir de la cinquième.
Ouais.
C'est un engagement qui n'est pas forcément facile à tenir, surtout dans l'environnement dans lequel on se trouve à horaire aménagé, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour soi. Aller en donner à Dieu en plus, ça peut être compliqué quelquefois, mais bon, ça se fait.
Très bien. Clarisse, nous allons avoir une petite pause musicale. Oui. Vous avez choisi un morceau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, on a choisi de vous faire écouter un morceau qui sera donné à notre concert ce soir, qui est écrit par Ola Djello, qui est un compositeur norvégien né en 1978 et vivant actuellement aux États-Unis. Ça s'appelle Northern Light. C'est un texte qui est tiré du Cantique des Cantiques, qui dit... Tu es belle, mon amie, fille de Jérusalem douce et fraîche, redoutable comme les troupes déployées. Détourne de moi tes yeux car ils m'ont vaincue, tu es belle. Et c'est un petit extrait d'un... Ils se sont mis à 8 ou 10 pour monter cette petite œuvre. Voilà, je vous laisse les écouter.
Merci.
Thank you. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Donc, la musique est au cœur de votre pédagogie. Clarisse, donc pourquoi avoir fait ce choix et qu'apporte la musique de spécifique dans la formation des jeunes?
Alors la musique, c'est d'abord un moyen privilégié pour développer chez les élèves le sens du beau. Et plus largement, elle permet de cultiver en eux l'habitude de l'effort, de la précision, de la mémorisation. On ne chante pas toujours par cœur, mais ça peut être aussi par cœur. Elle favorise beaucoup la confiance en soi et la capacité à travailler en groupe. Et elle invite au partage et à la transmission. C'est donc un vrai facteur de cohésion. C'est une passion mutuelle. Ils partagent vraiment toute cette idée-là. Il y a toujours un élève sur un instrument dans la maison. On sait pas. Voilà, c'est normal. Et par exemple, l'extrait de Jello que vous venez d'entendre, c'est une initiative personnelle de certains garçons qui ont décidé de le monter, ce truc-là, ensemble. Voilà, donc en fait, c'est surtout parce que ça porte vers le beau qu'on avait choisi ce domaine-là, et puis aussi parce que notre fondateur est un musicien et que le reste de l'équipe est assez musicienne quand même aussi. Oui. Voilà.
Et donc vous avez parlé d'école maîtrisienne, donc au service
de la liturgie.
Donc ça, c'est 80% de
travail. C'est une très grosse partie. Et après, les garçons vont expliquer comment ça se fait. Mm-hmm. Vous expliquer comment fonctionne la maîtrise et la pré-maîtrise. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait au total?
Tout d'abord, très largement, l'académie est divisée en deux. Il y a tout d'abord la maîtrise, donc de la cinquième à la terminale. Ça comprend donc les collégiens qui n'ont pas encore mué et les lycéens qui ont mué. Et donc la maîtrise, elle, produit des concerts assez fréquemment. C'est elle qui chante les vêpres. Et ensuite, il y a la pré-maîtrise. La pré-maîtrise, donc, ce sont les élèves de la CM1 à la 6e. Mm-hmm. Et eux ne se produisent pas ou très peu en concert et ne chantent pas les vêpres. Ils y assistent. Ouais. Et donc, oui, elle est en formation, en fait. Elle est en pré-maîtrise. Et c'est seulement en arrivant en cinquième qu'ils recevront donc, leur soutenelle pour chanter les vêpres et qu'ils pourront vraiment fréquemment chanter en concert.
Donc, on a la maîtrise qui est divisée en plusieurs chœurs différents pour pouvoir permettre de faire plusieurs concerts par week-end. Et voilà. Donc, d'abord, on a la Scola qui est principalement spécialisée en chant, donc qui fait plutôt les concerts... un peu plus vers Paris, des trucs comme ça. Mmh. Et qui chante beaucoup, qui est spécialisé. Donc, par exemple, le mercredi, c'est le jour des spécialités. Et la Scola va continuer à avoir sa répétition comme chaque jour de la semaine. Et puis, on a le chœur principal, donc, qui lui aussi chante le lundi, mardi et jeudi. Et qui, lui, qui se produit aussi en concert. Mais qui, le mercredi, va se diviser en petits groupes. Donc, on a, par exemple, l'orchestre qui va jouer... qui va donc tous les instruments avant, à cordes, voilà, oui. Qui vont travailler des morceaux entre eux, ou encore la musique actuelle, qui vont travailler d'autres morceaux pour des concerts, comme des concerts de jazz, de rock, de toutes les musiques actuelles, quoi. Aussi, chœur profane, qui vont chanter des chants comme assez profanes, donc pas actuels, mais qui sont pas non plus de la musique sacrée, mm-hmm. Et pour des concerts, comme un concert de jazz qu'il y a eu récemment. Et la pré-maîtrise, elle chante de temps en temps, enfin une répétition par semaine où elle chante des chants pour des âges préparés, plutôt des chants à voix blanche parce que bon, aucun n'a mué. Et qui se produisent, donc par exemple, se sont produits devant des personnes âgées, des choses comme ça, voilà.
Mm. Oui, donc la mue doit être un grand événement là chez vous.
Oui.
C'est fêté, c'est comme le passage de la ligne sur un bateau.
Alors, ce n'est pas fêté parce que...
C'est plutôt source de problèmes.
Oui, c'est plutôt compliqué à vivre.
Voix, ouais. Ouais.
Alors, je crois que nous, les filles, on ne connaît pas cette chose-là, au moins extrêmement peu. Parce qu'en fait, nous mûrons très tard. Mais les garçons, c'est un moment assez compliqué. Et je crois avoir compris que c'est un vrai deuil pour un garçon de perdre sa voix blanche.
Mmh. Quelqu'un qui chante.
Quelqu'un comme vous qui chante, oui, beaucoup. Tout, voilà, donc celui qui va...
C'est plus une perte qu'un désir d'aller vers les grands, là.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, une vraie perte.
Ça dépend pour qui aussi.
Ouais. Et simplement, en plus des chœurs principaux et du chœur de la scola, il y a aussi, on sépare aussi les élèves en deux chœurs du coup, le chœur voix blanche, donc le chœur des garçons qui n'ont pas mué, et le chœur à voix grave. Et donc aussi, ils ont leur répétition dans la semaine, donc c'est une fois par semaine, je crois. Et ils se produisent aussi en concert quelquefois séparément. Par exemple, là, la semaine prochaine, mardi, le concert à voix grave aura la chance de se produire en concert après signer. Et donc là, ça, c'est vraiment un gros concert qu'on attend aussi, avec plusieurs œuvres et qu'on monte depuis presque aussi longtemps que le gala.
Alors surtout, ce concert du chœur à voix grave, c'est important de souligner, c'est leur initiative. C'est eux qui décident de ce concert, c'est eux qui choisissent les œuvres, c'est eux qui les montent, c'est eux qui vont chercher l'orchestre, c'est eux qui vont chercher le financement de l'orchestre, parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Et ce chœur est toujours dirigé par un élève.
D'accord, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives
autour de ça. Voilà. Et du coup, effectivement, la musique va prendre beaucoup de place à l'académie.
Oui. Voilà. Et alors, est-ce qu'elle ne... Justement, peut-être que certains auditeurs pourraient se dire, mais ne prend-elle pas toute la place? Et la scolarité, alors? L'équilibre avec les études, jeunes hommes.
Elle ne prend pas toute la place parce que d'abord, la scolarité, ils sont d'abord à l'école. Alors, effectivement, nous, on a adapté les horaires scolaires, mais il faut bien présenter les examens. Et aujourd'hui, les examens d'État, donc le brevet des collèges pour les troisièmes et le baccalauréat. En plus, nous passons un baccalauréat hors contrat, donc forcément,
les épreuves,
on le passe en première et on le repasse en terminale. Et voilà. Mais on a trouvé un équilibre, un bon ratio scolaire qui permet de faire plus vite et aussi bien, voire un peu plus qu'ailleurs. Voilà. Et on a la chance d'avoir des petits effectifs, on a la chance d'avoir des élèves motivés. C'est eux qui ont choisi de venir ici. Voilà. Et on a la chance d'avoir des professeurs qui veulent bien s'adapter à la musique.
Oui.
Voilà. Donc, ça, c'est important.
Et donc, les cours ont lieu le matin ou sont des cours ou c'est une forme de préceptorat ou c'est...
Alors, on a des cours, des vrais cours avec des vrais professeurs qui sont des vrais professeurs diplômés, certifiés, parfois agrégés, docteurs, enfin, tout ce que vous voulez de ce côté-là. Voilà, toute
une belle équipe.
Une belle équipe pour ça. Les cours ont lieu pas forcément le matin parce que la disponibilité des professeurs n'est pas forcément... suffisamment grande pour que j'aie possibilité de mettre tout l'emploi du temps scolaire le matin et la musique l'après-midi. On essaye d'y arriver, mais on n'y est pas encore tout à fait. Mais voilà, donc y a les jours scolaires et les temps scolaires avec, comme dans beaucoup d'établissements, un devoir sur table toutes les semaines, des bacs blancs, des brevets blancs et une bonne évaluation complète. Et donc, on arrive à bien sortir de l'académie sans problème.
Ouais. Voilà. Et donc, quels sont justement vos résultats et qu'est-ce que font les anciens alors ?
Alors, nos résultats, eh bien, on a quasi 100% de résultats au brevet des collèges. Alors, ça arrive qu'on ne réussisse pas. Et en fait, on ne réussisse pas. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à gérer son stress. C'est juste cette question-là. Et c'est arrivé.
Stress enchantant et plus de stress.
Plus de stress pour le brevet parce qu'on est jeune. Et voilà, donc c'est surtout, effectivement, il est arrivé qu'un élève ne l'ait pas, mais c'était vraiment du stress. Et au bac, eh bien, écoutez, depuis qu'on a des élèves de terminale, c'est-à-dire depuis 2018, et nous allons présenter cette année notre 9e promotion au bac, nous avons 100% de résultats, 80% de mentions. Voilà, avec des...
Madame la directrice des études, félicitations.
Oui, merci. Voilà, mais surtout le récit de l'équipe. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait après l'académie ? Eh bien, 10% poursuivent dans la musique, quand même, parce qu'ils sont passionnés. Ouais. Ce soir, on a la joie d'accueillir comme soliste dans le Requiem de Forêt, François Darjac, qui est un de nos premiers élèves et qui, lui, a vraiment choisi la musique. Il s'est formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Donc, il a réussi ce difficile concours. Et aujourd'hui, il va poursuivre sa formation à la Dutch National Opera Academy d'Amsterdam, qui est spécialisée dans l'opéra et on est très content pour lui, c'est un beau parcours international qu'il prépare. Il y en a d'autres qui se forment au Conservatoire régional de Saint-Maur, en orgue de Versailles, en direction d'orchestre. Certains terminales sont déjà admis dans l'enseignement supérieur musical encore à Lille. Certains travaillent aussi à Bruxelles. Ces musiciens-là sont bien démarrés leur carrière. Et les autres, il en reste 90%, donc ça reste un objectif d'études entre guillemets normal pour les parents. 26% poursuivent en classe préparatoire des grandes écoles de tout style, donc le hippocagne, les maths, la physique, la biologie, enfin tout ce qu'on peut imaginer.
Il n'y a pas de dominante particulière.
Ils sont allés dans des prépas prestigieuses en région parisienne ou en province. Je rappelle que nos élèves viennent de toute la France, donc forcément, on ne choisit pas forcément de faire ses études à Paris. Certains sont allés à Sainte-Geneviève, qu'on appelle Ginette, à Versailles. D'autres sont à Stan, sont allés au Parc à Lyon, sont allés à Fénelon-Sainte-Marie à Paris, sont allés à Henri IV. Souci de Parcoursup. Certains ont choisi de faire leurs études aux États-Unis. Il y en a un qui est aujourd'hui à l'université Ave Maria en Floride, qui est une université vraiment catholique. Et puis l'année prochaine, Maxence ira étudier à l'école hôtelière de La Haye aux Pays-Bas.
L'auberge qui l'a mené vers
je pense qu'il y a peut-être quelque chose au départ. Et puis ceux qui ont passé les concours post-prépa, certains ont intégré l'école des mines, l'école centrale, l'école de Saint-Cyr. Et après, chacun vit sa vie dans le domaine qu'il a choisi. Alors, il y a les ingénieurs, d'accord. Il y en a un qui fait de la recherche à l'hôpital Beaujon sur le cancer du pancréas, mais il y a aussi celui qui est spécialisé en design automobile qui m'a déjà inventé la Land Rover de 2050.
Wow.
Voilà, on la garde celle-là. Et on a aussi un ancien élève qui est joaillier, il y en a un qui est couvreur, et il y en a un qui est plombier.
Belle perspective pour
très ouvert, voilà, c'est très ouvert. Bien, en fait, nous accompagnons au maximum l'élève dans son projet personnel. Donc ça nous prend du temps.
Accompagnement personnalisé pour chacun. Et justement, vous allez pouvoir nous en parler. Alors, Joseph, pourquoi déjà avoir choisi d'intégrer l'Académie musicale et qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard?
Alors, pour avoir intégré l'Académie musicale, c'est assez simple en fait. Somme toute, c'est un peu banal à l'Académie. J'ai entendu parler par des amis de mes parents. Et donc j'ai un peu regardé sur internet, sur le site de l'Académie. Et donc ça m'a plu, je suis allé faire ma semaine découverte à l'Académie. Ça m'a plu, j'ai décidé d'intégrer. Franchement, pas beaucoup de déceptions, voire pas du tout. Et même en fait, c'est allé au-delà de mes espérances. Alors éducativement parlant, et scolairement, pareil, j'apprends énormément de choses scolairement, notamment le travail en autonomie. La discipline, parce qu'on a quand même moins de la moitié d'heure de cours à l'académie que dans un lycée normal. Donc ça peut être difficile, mais on s'en sort. Et pour ce qui est de l'accompagnement personnel, on a vraiment une chance extraordinaire d'être accompagné, notamment par Madame Boutier, sur notre tempérament, sur notre caractère. On vient de finir un test pour nos personnalités RIASEC. Donc c'est ce qui va déterminer nos compétences. Donc qu'on soit peut-être artiste, entrepreneur,
réaliste, investigateur. Social, conventionnel. Voilà, c'est un test professionnel qu'on fait passer à nos élèves et qui leur permet de se découvrir. Ça ne les enferme pas dans quelque chose, mais ça permet de donner des pistes de là où on pourra être peut-être plus facilement meilleur qu'autrement.
Donc toi, tu as découvert quelque chose de...
Absolument.
Concernant... Tu es content de la découverte.
Oui, là, ça me correspond. Donc, c'est bon signe.
Bon. Et alors, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard?
Alors moi, j'espère intégrer une prépa maths physique sur des ingénieurs. Mon but étant Ginette, je ne suis pas sûr de l'atteindre.
Mais tu as des camarades déjà qui seront passés par là.
Ils sont déjà allés, en effet. Mais oui, sinon, ça va être une prépa scientifique parce que je ne suis pas encore certain de ce que je vais faire plus tard.
Et tu penses que la musique gardera une grande place dans ta vie?
J'espère intégrer un chœur si jamais je vais à Paris, notamment le chœur Efata qui me plaît pas mal. Mais oui, enfin c'est certain, l'académie m'a vraiment donné ce goût du chant en chœur que je ne connaissais pas avant. J'ai fait de la musique avant, j'ai fait 6 ans de piano et du saxophone. Et vraiment, ce chant en chœur, je l'ai découvert à l'académie et ça me plaît énormément. Donc,
Merci. Et toi, Gabriel, alors ? Donc, tu as rejoint relativement jeune l'académie musicale. Oui. C'est toi qui as demandé à tes parents qui t'ont invité à,
bah alors,
à faire cette semaine de découverte, puisque c'est un passage obligatoire, j'ai l'impression.
Oui. Ouais. Ben, en fait, j'étais dans une école et mes parents ont décidé de. J'étais avec mes frères et sœurs, on a changé d'école. Et moi, ils voyaient bien qu'à la maison, je m'ennuyais un peu, je préférais faire d'autres trucs. Ils m'ont proposé d'abord un internat en Belgique, parce que j'habite en Belgique. Mm-hmm. Que j'ai découvert pendant une journée, voilà, ça m'a assez plu. Et un autre internat qui était l'académie, où il fallait que je passe une semaine pour voir comment ça se passait.
Donc c'était pas très loin de chez toi, à Liège.
Oui, voilà. Ouais. Donc en petit CM2 que j'étais, j'y vais pour découvrir, voilà. Et en revenant, la première chose que je dis à mes parents, bah déjà c'était trop bien. Et surtout, j'ai énormément aimé la confiance et l'ambiance qui régnait entre les élèves, les adultes, et les plus jeunes et les plus grands. Et maman me demande si j'ai le cafard et j'ai dit, je réfléchis et je dis en fait j'ai pas eu le temps d'avoir le cafard. En gros, je m'ennuyais pas, j'étais bien et j'ai finalement été acceptée, donc j'ai pu intégrer cette école qui m'a correspondu énormément. J'aime beaucoup la musique. Je faisais déjà d'un instrument avant.
Ouais, je faisais
déjà d'un instrument. J'avais eu quelques années de solfège. Donc voilà, j'ai énormément apprécié l'académie et j'ai goûté au chant parce que j'avais encore jamais pu pratiquer le chant. Quoi. Ouais. Voilà.
Et donc, d'année en année, chaque année,
oui,
voilà. Tu es contente de retourner à l'académie.
Et... Vraiment. Ouais. Bah, retrouver les amis, parce qu'il y en a même qui sont toujours là depuis la 6e, au moins 5-6 que je connaissais dès la 6e.
Ouais.
Donc voilà, je connais beaucoup de monde. Et puis, j'aime beaucoup la musique, vraiment, ça me plaît énormément.
Mmh. Et alors, toi, quels sont tes objectifs ? Est-ce que tu sais déjà un petit peu ce que tu veux faire ou...
Bah, moi, ce serait un peu comme Joseph, aussi une prépa scientifique.
Oui.
Et Ginette pour tenter Ginette. Quoi. Voilà.
Là, ils ont très envie. Et après, il va falloir que les dossiers suivent.
Ouais.
Ce qui, voilà, c'est dans vos mains. Vous le savez, on ne peut pas le faire à votre place, bien sûr.
Alors, nous avons parlé des concerts tout à l'heure aussi. Là, vous allez monter sur scène ce soir. Alors, pourquoi la scène est-elle si importante dans votre vie ? Est-ce que c'est important pour les élèves ? Est-ce que s'il n'y avait pas de scène, ça serait tout aussi bien ? Ou là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, très importante ?
Alors, c'est peut-être encore plus qu'une cerise sur le gâteau.
Ouais.
Franchement, se produire en scène, c'est pas du tout la même chose qu'en répétition. Déjà, en répétition, tout simplement, on n'a pas la même rigueur professionnelle. Il y a forcément deux garçons qui vont parler entre eux, c'est un cours en soi. Même si les répétitions peuvent franchement apporter de la joie, le concert c'est vraiment autre chose. Déjà on est en mode professionnel, entre guillemets, et on est vraiment dedans, on a rien d'autre à faire de toute façon, c'est chanter, et du coup on se donne pleinement et c'est vraiment extraordinaire.
Et voir le résultat, la
performance des voix.
Ouais. Je pense sans la scène, on n'aboutit pas à le travail. On est content de ce qu'on a fait, mais la scène, c'est le moment où on donne tout, on va jusqu'au bout, c'est la reconnaissance du travail, c'est le contact avec le public. Et prendre aussi l'importance de l'image qu'on redonne, et c'est montrer son professionnalisme. Donc, oui, c'est les moments les plus importants. Donc, ce soir, c'est notre concert de gala. C'est vraiment l'aboutissement du travail depuis le mois de janvier.
Est-ce que vous pouvez nous redonner le programme ?
Alors, ce soir, on va chanter le Requiem de Fauré et la Messe en Ré de Dvorak. Et on va le chanter au Val-de-Grâce à 20h30. Vous pouvez venir parce qu'il y a encore des places. Vous n'hésitez pas à vous... branché sur notre site internet, vous aurez toutes les informations pour.
Académie musicale de Liesse. Oui.
Académie musicale de Liesse.fr, voilà, ça va marcher. Et effectivement, ce sera une belle soirée. On aura la chance d'avoir donc François Darjac comme soliste. On aura la chance d'avoir un ancien élève aussi, Hilaire Champeau, à l'orgue. Voilà, devrait être une belle soirée.
J'aimerais simplement ajouter quelque chose par rapport au concert. au-delà de, donc, de, du professionnalisme que ça nous apprend et du bonheur qu'on a chanté en concert, il y a aussi cet aspect missionnaire qu'on cultive à l'académie.
Et c'est l'écuyer qui parle.
Ah oui.
Oui, et donc, enfin, c'est une chance de pouvoir vivre aussi en, en chrétien et de pouvoir chanter donc, ces œuvres sacrées pour des personnes qui ne sont pas forcément catholiques.
Oui. Gabriel, est-ce que tu as un souvenir de concert particulier ?
Alors moi, je me souviens d'un concert, je crois que c'était l'année dernière, au Bernardin. Mmh. Bah, moi, en fait, à chaque concert, il y a des concerts où je me sens dans le concert, je chante pleinement. Il y a des concerts où je pense au public, enfin, je suis moins dans mon concert. Ce concert, je me souviens, c'était un de mes meilleurs concerts parce que je me sentais vraiment dans, le, dans la musique.
Oui.
Je chantais pleinement. Et puis, déjà, on était dans une super salle, c'est avec les arcades dans la salle en bas, avec beaucoup de public, donc j'ai beaucoup aimé ce concert.
Il y avait une belle résonance.
Ouais, ouais. C'était, bah, c'était que des arcades, donc les arcades, ça donne une super acoustique. J'ai beaucoup aimé ce concert. Et un autre concert, forcément, c'est le Requiem de Mozart, qui est quand même un morceau mythique. Et ça, c'était juste génial à chanter. C'était une expérience incroyable.
Joseph, tu veux nous donner aussi un petit un bon moment de concert ?
Par rapport au Requiem de Mozart, bah pareil, ça restera dans ma mémoire comme peut-être le meilleur concert que j'ai fait à l'Académie.
Ouais.
Il était exceptionnel, on avait travaillé tout le début de l'année sur cette œuvre. C'était incroyable et puis objectivement, c'est quand même une œuvre que, enfin, même peut-être subjectivement, je trouve juste exceptionnelle. D'ailleurs, ma famille l'a trop entendue à la maison. Et voilà, donc franchement, j'ai un super souvenir, surtout du concert à Saint-Roch à Paris.
Ouais.
C'était l'aboutissement final des mois de travail qu'on avait fait avec Monsieur Chatillon, notre chef de chœur. Et donc voilà, maintenant aujourd'hui, quand je réécoute, parce qu'on l'avait enregistré, quand je réécoute l'œuvre qu'on a chantée, c'est plein de super bons souvenirs, que ce soit en répétition, que ce soit pendant le concert même. Ouais. C'est génial, bon. Exceptionnel.
Clarisse, aujourd'hui, quels sont vos plus grands défis et vos projets pour la suite ?
Alors, notre plus grand défi, c'est de continuer à vivre et de continuer à faire vivre cette belle aventure de l'Académie. Donc, c'est un grand défi financier.
Oui.
Donc, c'est sûr que, on est très heureux de nos résultats scolaires, on est très heureux de nos résultats musicaux, mais il faudrait aussi que les finances suivent et ce n'est jamais facile. Donc,
avis aux auditeurs qui souhaiteraient vous aider.
Avec plaisir, avec joie. Nous avons la joie de pouvoir défiscaliser les dons quand, pour ceux qui ont la chance ou la malchance de payer des impôts. Donc n'hésitez
la période
pas à nous soutenir.
L'IFI.
Voilà. Mmh. L'autre défi, c'est de poursuivre la rénovation de nos bâtiments parce qu'on a, rénové. Deux tiers, mais il reste un tiers, et dans lequel on aimerait bien pouvoir mieux installer l'internat, créer une bibliothèque, créer un laboratoire pour pouvoir travailler mieux encore. Et puis, dans le petit projet plus simple, plus rapide, que j'espère qu'on va pouvoir valider rapidement. Autrefois, dans notre propriété, il y avait un calvaire. Et quand il a fallu déménager l'EHPAD pour l'installer mieux dans des bâtiments plus modernes, en fait, le centre Basile Moreau s'est installé dans l'autre moitié du jardin et le calvaire a été démonté. Alors il gît au fond de la cour. Il est là, par terre. Et donc, pour l'instant, nous.
Appel SOS Calvaire.
Voilà, alors on va travailler sans doute avec SOS Calvaire, mais aussi avec un ancien élève qui est maçon.
Ah,
et nos élèves de 4e et 3e sont en ce moment dans un bon concours d'éloquence sur cet objet du patrimoine et pourquoi faut-il le remonter. Et j'avoue qu'ils ont fait un super travail. Donc, la finale se fera. Le 19 juin, et nous verrons qui remportera ce travail-là. Voilà, et puis vous pouvez aussi nous soutenir et nous aider par la prière, parce que ça nous est vraiment utile, en proposant à vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, enfin voilà, de postuler à l'Académie. Et puis, venez nous voir.
Oui, venez faire la semaine de découverte aussi.
Alors la semaine de découverte, c'est pour...
C'est un moment de l'année pour les petits
C'est pour tous les élèves qui postulent, petits ou grands.
Oui. Certains rejoignent en terminale.
Alors en terminale, ça ne s'est jamais fait. Mmh. En première, oui, parce que... on a besoin de temps pour l'orientation et en terminale, en fait, l'année va tellement vite qu'on n'a jamais détester d'accueillir un élève en terminale. Mais effectivement, venir une semaine, ça permet de voir la réalité des choses, parce que je crois que notre site internet donne des vidéos sympathiques. On voit des garçons assez joyeux, mais après, il y a la vraie vie, quoi. Et donc, c'est important que le jeune qui postule vienne voir ce qui se passe.
Et donc, vous ne nous avez pas dit, vous êtes dans des dortoirs de combien de jeunes gens ?
Ça varie vraiment selon les âges. Ouais. La pré-maîtrise de la CM1 à la 6e est en dortoir.
Ouais.
De la 5e à la 4e, ils sont dans des chambres de 5, 4, peut-être 6 même. De la 3e à la 2e, c'est de 4 à 3. Et puis de la première terminale, c'est de 2 à 3 aussi.
Voilà. En fait, on vit quand même bien ensemble. Donc effectivement, il faut venir voir ce qui est en vrai. Voilà. Et puis. Bon. Il y aura toujours des projets. Enfin, la créativité de l'équipe est assez extraordinaire. Donc, on peut avoir plein d'idées encore pendant des années.
Oui, puis après, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez l'intention de vous donner des conseils à des personnes qui souhaitaient créer éventuellement d'autres académies musicales, éventuellement pour les jeunes filles.
Voilà, alors depuis le début, on nous demande l'école pour les filles. Donc, en fait, on est tout à fait prêt à donner tous les conseils de ce que nous avons fait, comment nous avons fait, etc., pour créer pour les filles. Mais là, il faut une équipe qui se monte et qui porte le projet. Nous, on est prêts à accompagner tous les porteurs de projet en conseil. Et puis après, c'est à eux de faire évoluer les choses. Mais ce serait super, en fait. Voilà, on n'attend que ça. Bon. Pas que ça, mais...
Clarisse, si vous deviez résumer l'académie en une phrase, chacun d'entre vous ? Alors, Clarisse d'abord, peut-être Clarisse.
Alors moi, je dirais que c'est une école où on grandit dans la joie et la confiance, dans la foi et dans l'esprit de famille, et le tout en musique.
Ouh là là.
C'est pas facile.
Ah oui, non, c'est pas facile.
Ce qui est au centre de l'académie, c'est donc, je pense que c'est vraiment la joie et l'esprit de famille. Et ce qui le résume le mieux, c'est peut-être notre devise, du coup, c'est « Mes enfants, soyez joyeux ».
Oui. Gabrielle, tu peux...
Moi, j'avais l'idée de la devise, c'est assez simple.
Oui. Hein,
mais je dirais que l'académie, c'est une école où la musique est le centre de notre vie, et ainsi que l'ambiance qui est dans cette école, que ce soit avec les adultes et les élèves entre eux.
Merci beaucoup à tous les trois. Nous invitons donc nos auditeurs à venir vous écouter ce soir à 20h30 au Val-de-Grâce. Vous pouvez encore prendre vos places. Et nous allons donc écouter le Gloria, Clarisse.
On va écouter un petit bout du Gloria de la messe en ré que vous pourrez donc entendre ce soir de Dvorak.
Merci beaucoup à tous les trois et bonne soirée.
Merci. Merci.
Alors, vous avez entendu les jeunes gens, dont Joseph et Gabriel, dans ce morceau de Dvorak. Et nous vous invitons vraiment à venir les écouter ce soir au Val-de-Grâce. Et donc, pour l'agenda, pour la suite, aujourd'hui aussi, c'est un grand jour pour la Fondation pour l'école, car nous organisons un colloque qui a lieu tout à l'heure au Palais du Luxembourg sur les attentes des Français en matière d'école. Nous avons demandé un sondage qui a été réalisé par l'IFOP, qui est intitulé « Que veulent les Français pour l'école ?» Et donc, les résultats seront dévoilés tout à l'heure sous le patronage du sénateur Max Brisson. Donc Jérôme Fourquet en présentera les principaux enseignements avant une table ronde animée par la journaliste Azélise Lecor. Nous vous invitons également, alors pour ceux qui souhaitent devenir professeur des écoles ou alors vous avez dans votre entourage des jeunes gens qui souhaiteraient le devenir, nous organisons encore une dernière journée porte ouverte de l'Académie pour l'école, le nouveau nom de l'ILFM, qui aura lieu très prochainement le 6 mai de 14h à 15h30 en visio. Et donc vous pouvez retrouver ce lien sur la page de Radio Courtoisie. Et la directrice de l'académie vous présentera à l'académie. Et puis les deux années de formation vous seront également présentées. Il y aura également pour les directeurs d'école une formation sur le rôle et responsabilités des dirigeants d'école le 6 juillet 2026 à Paris dans le 14e. Et vous pouvez retrouver aussi toutes les informations sur le site. Et comme nous vous l'annoncions tout à l'heure avec Clarisse, c'est la période IFI, où vous devez faire vos déclarations d'impôts et verser vos impôts. Et donc vous pouvez réduire cet IFI en affectant votre impôt à une action qui a du sens pour les générations à venir que nous avons devant nous. Et donc, vous pouvez faire un don à la Fondation pour l'école ou à la Fondation des Académies musicales pour aider ces nouvelles générations. Nous vous remercions beaucoup et nous nous retrouverons au mois de juin avec Hervé Roland. À bientôt et à ce soir.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Vous venez d'entendre le libre journal de l'école dirigé par Florence Leroux et Hervé Roland. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 4 mai 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.